Je vais commencer par un petit historique. Ensuite, vous parlez de la définition des soins palliatifs et ensuite de l'évolution législative. Alors, comme vous l'avez remarqué, dans notre société postmoderne, on est un peu entre deux pôles qui sont un peu opposés. On est entre la mort virtuelle qui est complètement banalisée, sans affectivité. Il y a des études qui ont montré qu'un jeune de 17 ans avait vu en moyenne 18 000 morts virtuelles dans sa vie, entre le cinéma, les écrans, l'iPhone, la tablette, etc. Les jeunes ont vu plein de morts virtuelles sur écran, mais ça ne veut strictement rien dire, enfin, ça ne les atteint pas vraiment. Donc il y a ce pôle, et puis de l'autre côté, il y a une ignorance et une peur de la vraie mort. La mort est cachée, elle est taboue. Et donc maintenant, moi je suis frappée de voir parfois à l'hôpital des familles qui accompagnent avec des personnes qui ont 60 ou même 70 ans, qui n'ont jamais vu une personne morte, qui n'ont jamais accompagné quelqu'un jusqu'à son décès. Ça m'étonne toujours, mais c'est comme ça. La mort est devenue quelque chose de tellement tabou que les gens arrivent à un âge très avancé sans avoir jamais vu la mort de près. Donc on est entre ces deux pôles. La mort a depuis la nuit des temps questionné l'être humain, et aux diverses périodes de son histoire, la société humaine a tenté de faire face de différentes manières à ce dernier départ, à ce grand passage. Alors, je dresse un tableau historique vraiment très grossier et très rapide. Je commence au Moyen-Âge. Au milieu du Moyen-Âge, vers les années 1200, comme vous le savez, on a construit les cathédrales. Et sur les tympans des cathédrales, qu'est-ce qu'il y avait ? Il y avait des jugements derniers. Vous avez sûrement vu ces jugements derniers à Conques, à Autun, à Bourges, à Notre-Dame de Paris, avec les élus à droite du Christ, à la droite du Christ, et les damnés à gauche du Christ. Et au centre, en général, il y a un Christ en gloire. Au-dessus du Christ, en général, il y a le ciel. Ça représente une sorte de catéchèse visuelle afin d'inciter tout un chacun à se préparer de façon convenable au dernier moment de l'existence sur Terre. C'était une catéchèse que tout le monde pouvait voir sur le tympan des cathédrales, qui était parfois un peu... C'est pas très gai, hein. C'est très beau, mais c'est pas très gai. Ça donne pas envie d'aller en enfer, quoi. Vers la fin du Moyen-Âge, on passe de cette catéchèse visuelle à une catéchèse écrite. Et il y a un genre littéraire nouveau qui apparaît, qui s'appelle l'art de bien mourir. De même qu'il y a l'art du roman, vous voyez, il y avait à la fin du Moyen-Âge un nouvel art qui s'appelait l'art de bien mourir. En latin, ça s'appelle l'ars moriendi. Et de nombreux livres sont publiés sur ce sujet au XVe siècle. Et bien mourir constitue une préoccupation essentielle des personnes. Un peu plus tard, vers 1650, les jésuites à Rome, ils créent ce qu'on appelle la confrérie de la bonne mort. La confrérie de la bonne mort, son objectif, c'est de préparer tout un chacun à une bonne mort par la prière et la pénitence. Et il y a même des confréries de la bonne mort qui se répandent en Europe, notamment en Pologne, au tournant des XVIIe et XVIIIe siècles. Pendant toute cette période, on mourait dans les hospices. Vous avez sans doute visité les hospices de Beaune ou de Bruges, ou dans les hôtels-dieu, l'hôtel-dieu de Paris, l'hôtel-dieu de Lyon, il y a des hôtels-dieu dans la plupart des grandes villes. On parlait pas des personnes en fin de vie, on parlait des incurables, pour désigner les personnes en fin de vie. Les incurables, les personnes qu'on ne pouvait pas guérir. Alors, après cette période-là, deux femmes ont initié le mouvement des soins palliatifs. L'une en France, Jeanne Garnier, et l'autre en Angleterre, Cicely Saunders. Alors, je vais vous parler un peu de ces deux femmes, parce que c'est quand même assez intéressant. Jeanne Garnier, d'abord, elle a vécu entre 1811 et 1853 à Lyon, et c'est elle qui a fondé les Dames du Calvaire. Les Dames du Calvaire, c'est ce qui a existé, c'est les ancêtres de Jeanne Garnier. Donc cette femme, elle a vécu assez peu de temps, elle est morte à l'âge de 42 ans. Jeanne Garnier, elle s'est retrouvée veuve en 1835 à Lyon à l'âge de 24 ans. Elle avait votre âge à peu près. Elle a perdu, en l'espace de très peu de temps, elle a perdu son mari et ses deux enfants. Donc elle a eu trois décès de ses plus proches en l'espace d'une année, je crois. Et elle était dans une tristesse, comme vous pouvez l'imaginer, absolument insondable. Elle allait sur la tombe de ses trois proches quasiment tous les jours, en traversant un pont sur la Saône, et je cite quelqu'un qui raconte, « Rien ne l'intéresse que son chagrin. Tous les jours, elle monte au cimetière, et elle avouera plus tard qu'elle traversait le pont en courant, poursuivie qu'elle était par la pensée de se jeter dans le fleuve. » Pour vous dire un peu la profondeur de son chagrin. Cependant, Jeanne a la foi, elle est croyante, et peu à peu, la prière et la visite des incurables vont la rendre à la vie, vont lui redonner le goût de la vie. Alors ça, c'est intéressant déjà, parce que tout le monde a peur de la mort et a peur d'accompagner des personnes en fin de vie. Et en fait, ce que Jeanne Garnier dit là, c'est que le fait d'accompagner ces femmes incurables, qui en général étaient des femmes qui avaient des tumeurs très avancées, qu'à l'époque on ne savait absolument pas soigner, notamment des cancers du sein par exemple, avec des plaies très importantes, le fait d'accompagner ces femmes en fin de vie, ça l'a rendu à la vie. C'est ça qui lui a redonné le courage de continuer à vivre. Et donc seule, à 24 ans, elle décide de consacrer son temps et sa fortune à l'accueil de femmes incurables. Elle les loge dans sa propre maison, elle prend soin d'elles et les accompagne jusqu'à leur mort. Peu à peu, quelques veuves la rejoignent et avec elles, Jeanne Garnier fonde à Lyon l'œuvre du Calvaire en 1842. Inspirée par cet exemple, Madame Aurélie Jousset, veuve elle aussi, crée en 1874, donc un petit peu plus tard, le Calvaire de Paris, qui est l'ancêtre de l'actuelle maison médicale Jeanne Garnier. Elle fait graver sur le mur de la maison une phrase de l'évangile de Saint Matthieu, « J'étais malade et vous êtes venu me visiter » pour exprimer la signification profonde de cette œuvre. Il faut savoir qu'il existe plusieurs maisons actuellement des Dames du Calvaire en France et il y en a une à New York. En France, il y en a une à Bordeaux, il y en a une à Saint-Étienne, il y en a une à Marseille, il y en a une à Paris, et il y en a une à New York que j'ai visitée dans le Bronx, qui est une énorme maison de soins palliatifs. À Jeanne Garnier, il y a 80 lits. Dans le Bronx, la maison des Dames du Calvaire, il y a 300 lits. Donc c'est un truc énorme. Il faut savoir qu'il y a une cause de béatification qui est engagée pour Jeanne Garnier à Lyon. Le postulateur de la cause, c'est un bénévole de Jeanne Garnier qui s'appelle Guy de Butet. Et je crois que c'est une cause qui avance tout doucement. Donc peut-être qu'un jour, Jeanne Garnier sera bien heureuse. Alors elle, ses apports pour les soins palliatifs, c'est l'accompagnement. C'était une époque où on n'utilisait même pas la morphine pour les patients en fin de vie, elle n'avait pas grand-chose à sa disposition. Elle faisait des pansements, elle nettoyait les plaies, et surtout, elle offrait sa présence, sa proximité, sa tendresse, et elle les accompagnait jusqu'au bout. Donc c'est vraiment la naissance de l'accompagnement bénévole pour ces patients en fin de vie. Après, il y a eu une autre femme tout à fait extraordinaire qui s'appelle Cecily Saunders, qui a vécu un petit peu plus tard, de 1918 à 2005. Elle a fondé l'hôpital Saint-Christopher à Londres. Alors, cette Anglaise, elle était anglicane. Dans un premier temps, elle a fait des études d'infirmière. Et puis, elle avait mal au dos, et donc elle a été obligée de se reconvertir. Dans un deuxième temps, elle a fait des études d'assistante sociale. Et pour finir, elle a commencé des études de médecine à l'âge de 33 ans. Je trouve qu'il faut quand même un certain courage pour enchaîner des études d'infirmière, d'assistante sociale, puis de médecine. Alors comment ça s'est passé? au moment où elle était assistante sociale, en 1947, elle a rencontré un réfugié juif polonais qui avait 40 ans, elle avait une trentaine d'années, qui s'appelait David Tasma, qui avait vécu le drame du ghetto de Varsovie et qui mourait d'un cancer du rectum dans un hôpital de Londres, loin des siens. Cet homme était dans une grande détresse physique et morale et il s'interrogeait sur le sens de sa vie. Elle, Cicely, elle était envoyée en tant qu'assistante sociale pour régler ses problèmes matériels, en fait. Et puis, elle a été touchée par cet homme et par sa profonde détresse et elle a décidé de venir le voir, de le visiter régulièrement, n'hésitant pas à lui donner l'écoute et l'amitié dont il avait besoin. Et finalement, il y a un lien très profond qui s'est établi entre ces deux personnes. Au cours d'un échange, elle était anglicane, lui était juif, elle a dû vouloir essayer de le convertir en quelque sorte, et elle lui a présenté sa propre foi. Et celui-ci il ne l'a pas rabroué, il lui a juste répondu « Je ne demande que ce que vous avez dans l'intelligence et dans le cœur. » Donc elle a réalisé que ce n'était pas forcément une bonne idée de vouloir le convertir à l'anglicanisme, et cette phrase l'a beaucoup marqué « Je ne demande que ce que vous avez dans l'intelligence et dans le cœur. » David mourut quelques mois plus tard, le 25 février 1948, apaisé et réconcilié avec la foi de ses pères. La façon même dont David s'éteignit fut pour elle une leçon. Quand il mourut, raconte-t-elle, dans le calme et ayant fait la paix avec le Dieu de ses pères, il me laissa l'assurance qu'il avait trouvé ses propres réponses et que toute notre activité soignante devait donner une totale liberté aux patients de faire leur propre chemin dans la recherche du sens de leur vie. C'est pas nous qui pouvons trouver les réponses aux questions des patients. C'est eux qui trouvent leurs propres réponses. Nous, on est là juste pour essayer de leur donner les meilleures conditions, c'est-à-dire par exemple qu'ils ne souffrent pas, pour pouvoir justement faire ce dernier travail de résoudre les dernières questions qu'il leur reste à résoudre pendant ce temps qu'il leur reste à vivre. Cicely Saunders constatera par la suite et en témoignera à plusieurs reprises que nombreux sont les patients qui trouvent par eux-mêmes leur propre voie pour répondre aux dernières énigmes de leur vie. Lorsque David mourut, il légua à Cicely une somme de 500 livres sterling. 500 livres sterling, ce n'est pas une énorme somme, c'est à peu près 500 euros. Et il lui dit, c'est pour ouvrir une fenêtre dans votre futur établissement. J'imagine que quand ils étaient tous les deux ensemble, Cicely lui avait parlé de son projet d'ouvrir un hôpital pour les patients en fin de vie. Cicely comprit cette fenêtre de façon évidemment symbolique, d'abord comme une invitation à une ouverture au monde, puis comme un défi lancé aux collaborateurs du Saint-Christopher d'une ouverture non seulement aux patients et à leurs familles, mais aussi les uns aux autres. Et actuellement, à l'entrée du Saint-Christopher, il y a une fenêtre qui est toujours ornée de fleurs et qui est dédiée à David en mémoire du don qu'il a fait à Cicely. Cette femme a manifesté tout au long de sa vie un sens aigu de la singularité de chaque être humain, ainsi que du respect de sa dignité propre. Après le décès de David, elle était donc assistante sociale, elle a pensé pendant un moment reprendre sa profession d'infirmière, en même temps elle avait mal au dos, et donc c'est un ami médecin qui lui a dit « Mais écoute, si tu veux créer un hôpital et si tu veux t'occuper de patients en fin de vie, la meilleure chose qui te reste à faire, c'est de commencer tes études de médecine. » Et c'est comme ça qu'à l'âge de 33 ans, elle a commencé ses études de médecine à Londres, puis elle a créé le Saint-Christopher Hospital, qui est une référence en matière de soins palliatifs, en Angleterre et même beaucoup plus largement. Alors, quels sont les apports de Cicely Saunders dans le monde des soins palliatifs, dans l'histoire des soins palliatifs? C'est elle qui a commencé à utiliser le sirop de morphine pour les patients en fin de vie. Le sirop de morphine, actuellement, on a un compte-goutte qui s'appelle l'Oramorph, qui est de la morphine liquide. L'ancêtre de l'Oramorph, c'est le sirop de morphine qu'elle a commencé à utiliser pour les patients douloureux en fin de vie. Et c'est elle qui a dit que non, il n'y avait pas de problème d'accoutumance avec la morphine quand on l'utilisait à bon escient, et si les patients étaient vraiment douloureux, et qu'en plus leur décès était quand même dans un délai assez rapproché. C'est elle qui a créé, qui a parlé de « total pain », la notion de souffrance globale. Un jour, elle pose la question de la douleur à une femme, et cette femme, cette malade, lui répond un peu en colère, « la douleur, mais tout est souffrance ». Tout est souffrance, c'est ce qu'on appelle « total pain », hein, la douleur sur les plans non seulement physiques, mais psychiques, sociales et spirituelles. C'est aussi elle qui a inventé la notion de prise en charge en quatre dimensions, physique, psychique, sociale et spirituelle. C'est aussi elle qui a fait passer du tout cure au tout care, c'est-à-dire du concept de guérir le corps au concept de prendre soin de la personne. Donc vous l'avez compris, la naissance des soins palliatifs est née d'un triple mouvement. Un mouvement de protestation devant une médecine qui devenait de plus en plus technique et qui oubliait un peu l'homme, est né d'une affirmation que le malade peut rester jusqu'au bout acteur de sa propre vie, et aussi est né d'une incitation à élargir notre conception du soin sans se focaliser sur un organe malade. Peu de temps après Cicely Saunders, il y a eu vraiment la naissance du mouvement des soins palliatifs à la fin des années 1980. Il y a eu une circulaire Larocque le 26 août 1986 relative à l'organisation des soins et à l'accompagnement des malades en phase terminale qui constitue le texte de référence qui donne une assise juridique à l'organisation des soins palliatifs. Après ça, il y a eu la création des premières unités de soins palliatifs à la fin des années 80, la création des grandes associations de bénévoles, JALMAV, l'ASP. C'est aussi malheureusement à ce moment-là qu'est née l'ADMD, l'Association pour le droit de mourir dans la dignité, qui n'a pas tout à fait les mêmes idées que nous. C'est en 1989 qu'est née la SFAP. La SFAP, c'est la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs. C'est la société savante des soins palliatifs. Alors, la définition des soins palliatifs, vous la connaissez probablement. Je vous donne trois définitions qui se ressemblent d'ailleurs. L'OMS a défini les soins palliatifs en 1990. Les soins palliatifs sont des soins actifs, complets, donnés aux malades dont l'affection ne répond pas au traitement curatif. La lutte contre la douleur et d'autres symptômes et la prise en considération des problèmes psychologiques, sociaux et spirituels sont primordiales. Il y a aussi une définition dans la loi de juin 1999, la première loi sur les, enfin la loi qui dit que tout patient qui nécessite a besoin de soins palliatifs. Cette loi dit les soins palliatifs sont des soins actifs et continus, pratiqués par une équipe pluridisciplinaire en institution ou à domicile. Ils visent à soulager la douleur, à apaiser la souffrance psychique, à sauvegarder la dignité de la personne malade et à soutenir son entourage. Et enfin, la SFAP, la Société française de soins palliatifs, dit les soins palliatifs sont des soins actifs, délivrés dans une approche globale de la personne atteinte d'une maladie grave, évolutive ou terminale. L'objectif des soins palliatifs est de soulager les douleurs physiques et les autres symptômes, mais aussi de prendre en compte la souffrance psychologique, sociale et spirituelle. Ce que vous voyez dans ces trois définitions, c'est que ce sont des soins actifs. Alors moi, je suis assez frappée parce que encore maintenant, je suis confrontée. Je rencontre des médecins généralistes. Pour eux, les soins palliatifs, c'est on arrête tout et puis on attend que le décès arrive. Bon, c'est pas du tout ça, les soins palliatifs. C'est des soins actifs. Même si on arrête les chimiothérapies, si on arrête les traitements lourds, les dialyses ou je sais pas quoi, il y a encore plein de choses à faire pour assurer le confort du patient, pour l'accompagner, pour qu'il ne soit pas douloureux, pour qu'il n'ait pas de nausées. Enfin, il y a plein de choses à faire. Donc, ce n'est pas du tout les soins palliatifs, ce n'est pas du tout on arrête tout, on tient la main et puis on attend que ça se passe. Mais moi, j'ai encore des médecins généralistes en EHPAD qui font comme ça. À partir du moment où on dit ce patient, il faut qu'il bénéficie de soins palliatifs, à partir du moment où ils n'arrivent plus à prendre leur traitement par la bouche, ils arrêtent toutes les prescriptions Et puis, c'est terminé, on attend, voilà, on attend que ça se passe. Et s'il n'y a pas une équipe de soins palliatifs derrière qui est là pour prescrire sur un autre mode, en sublingual ou en sous-cutané, ben, il ne se passe rien. Donc ça, c'est des questions qui se posent encore au jour d'aujourd'hui, en 2021. Alors, d'autres définitions un peu plus, moins académiques des soins palliatifs, Cicely Saunders, elle disait, les soins palliatifs, c'est tout ce qu'il reste à faire quand il n'y a plus rien à faire. Le professeur Jean Bernard disait, c'est ajouter de la vie au jour quand on ne peut plus ajouter de jour à la vie. Et j'ai une amie médecin de soins palliatifs qui dit, les soins palliatifs, c'est un gaspillage utile de temps. Et je trouve que c'est assez vrai. Alors, les soins palliatifs sont guidés par des grands principes, et ces grands principes imposent une posture. Quels sont les grands principes? Je vous en énumère 5, dont j'aimerais bien que vous vous souveniez, parce que c'est la chose la plus importante de mon petit baratin. Le premier principe, c'est que mieux vaut mourir accompagné que sédaté. Ça, il faut s'en souvenir. Hein. L'accompagnement en fin de vie, c'est quelque chose de tout à fait primordial sur lequel il faut y aller à fond, et c'est très important. Le deuxième principe, c'est pas de découpage de la personne. On voit vraiment la personne dans sa globalité. On s'occupe pas de son pancréas ou de sa fonction rénale ou de je sais pas quel organe. On s'occupe de la personne dans sa globalité. Le troisième principe, c'est la fin de vie n'est pas un problème à résoudre, mais une étape existentielle à accompagner. Ça aussi, c'est très important. En médecine et pendant vos études d'infirmière, enfin, dans tout le médical, là, on raisonne beaucoup en problème à résoudre. Il y a un problème, il y a une question qui se pose, et il faut trouver la solution, il faut prescrire ce qu'il faut, et ça se présente comme un problème de maths à résoudre, en quelque sorte. Mais les soins palliatifs, c'est pas du tout ça, hein. La fin de vie, c'est une étape de l'existence, une étape tout à fait capitale qui est à accompagner. Et accompagner, c'est pas résoudre un problème, ça dépasse largement le cadre de la résolution d'un problème. Alors, un autre principe, c'est que les soins palliatifs considèrent le malade comme une personne vivante et non comme un mourant. Cette personne, certes, elle est en fin de vie, mais elle est aussi riche de toute une vie. Alors, vous n'imaginez certainement pas tout ce que les... J'ai accompagné évidemment un très très grand nombre de personnes, mais je pourrais écrire des romans sur tout ce qu'ils m'ont apporté. Vous n'imaginez pas la richesse de vie dont ces personnes peuvent témoigner. Alors, il faut être vigilant, parce qu'il y a certaines familles qui enterrent un peu prématurément leurs proches. Par exemple, ça m'est arrivé d'être dans la chambre d'un patient qu'on accompagnait et d'entendre un frère ou une épouse ou une sœur parler du patient qui était là, encore en vie, dans son lit, et d'en parler au passé. Ça, c'est quelque chose qui est quand même... Je trouve ça violent, quoi. Alors après, on essaye de prendre la famille à part et puis d'expliquer les choses paisiblement, mais c'est des choses auxquelles sur lesquels il faut être vigilant et faire attention. Le dernier principe, c'est que les soins palliatifs considèrent la mort comme un processus naturel. Ils ne cherchent ni à l'éviter à tout prix, ni à la provoquer, évidemment. Alors, ces différents principes, ils entraînent une posture. Une posture humble face au mystère de la personne et de sa fragilité, avec de nombreuses questions éthiques. On est très souvent dans le questionnement éthique en soins palliatifs. Travailler en soins palliatifs, ça demande de vraies compétences médicales, soignantes et aussi relationnelles. Capacité à écouter, à expliquer, à rassurer. Ça demande aussi des capacités de dire la vérité à l'aune de la charité. C'est assez compliqué, ça, hein. Ça veut dire qu'il faut dire la vérité sans la cracher au patient, en quelque sorte, mais sans la cacher non plus. Donc, c'est, ça demande une certaine subtilité. Moi, j'ai reçu beaucoup de patients qui étaient encore sous le choc d'annonces qui n'avaient pas été faites avec la délicatesse voulue. Il y a encore des médecins qui ont du mal à dire la vérité. C'est probablement un mode de défense pour eux. Et du coup, ils balancent la vérité de façon très violente. Ça existe encore dans les hôpitaux, ça. Donc, il faut savoir que ça demande des pincettes quand même. La vérité, on la balance pas comme ça. Mais c'est pas une raison pour pas la dire non plus. Quand le patient pose une question, on lui doit une réponse. Et une réponse franche. C'est pas la peine non plus de... Vous voyez, alors c'est difficile. Par exemple, quand le patient vous demande « Est-ce que je vais remarcher, docteur ?» Ben, ça serait facile de dire « Oui, vous allez sûrement marcher. » Et si vous savez pertinemment que non, il ne remarchera pas, eh ben, il faut avoir le courage de le dire en le regardant dans les yeux et en l'expliquant pourquoi il ne pourra pas remarcher et en parlant et en mettant en valeur tout ce qu'il est encore capable de faire. Enfin, il y a des manières d'être qui sont quand même... qui sont normales. De travailler en soins palliatifs, c'est aussi c'est être conscient que notre qualité de présence et d'écoute est beaucoup plus importante que nos paroles. Notre qualité de présence et d'écoute, c'est vraiment ce qui prime. Moi, j'ai été marquée par certains patients. Parfois, vous avez des patients, vous passez dans leur chambre, vous avez l'impression que vous avez quasiment rien dit, hein. Vous avez quasiment pas ouvert la bouche, vous avez peut-être dit une petite phrase par-ci, par-là, puis c'est le patient qui parle, qui vous raconte plein de choses, et puis après, le patient, il raconte à tout le monde que vous êtes extraordinaire, que vous êtes formidable et tout, puis quand vous vous remémorez votre visite, vous vous dites, mais j'ai rien fait, j'ai pas dit un mot, j'ai pas... Mais en fait, la qualité de présence et d'écoute est très importante, beaucoup plus que ce qu'on raconte. Ça implique aussi de passer d'une médecine du corps à une médecine de la personne, mais ça, vous l'avez compris. Ça implique d'accepter de côtoyer la souffrance et d'assumer son impuissance. C'est pas évident pour un médecin, hein. Ça, c'est pas évident pour un soignant. Voilà, ça s'apprend au fil des ans. C'est accepter en quelque sorte, comme dit saint François d'Assise, c'est accepter notre sort, la mort, comme une compagne. Et cela demande une certaine conversion du cœur. Voilà, ça c'est un peu la posture du soignant, médecin, infirmière, aide-soignante, c'est aussi la posture du bénévole. Dans la formation des bénévoles, il y a toute une formation à l'écoute qui est importante. Alors ensuite, l'évolution législative, c'est moins important et moins intéressant. Enfin, si, c'est quand même intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que le contexte législatif a énormément évolué ces 15 dernières années, enfin ces 20 dernières années. En tant que soignant, en tant qu'infirmière ou médecin ou aide-soignante ou orthophoniste, enfin tous les soignants, les kinés, tous les soignants ont avec leurs patients une relation de soins. Et cette relation de soins, c'est en quelque sorte une intrusion dans le corps d'autrui. Et ce droit d'accès au corps d'autrui, c'est quelque chose de tout à fait incroyable, hein, de tout à fait inouï. Et qui implique des devoirs. Et le premier devoir de ces soignants, c'est d'être vraiment infiniment respectueux du corps d'autrui. Ça, c'est quelque chose sur lequel il faut un peu réfléchir. C'est-à-dire que quand on examine un patient, quand on a accès à son corps, il faut vraiment être imprégné d'un profond respect. Il faut y aller avec lenteur, avec respect. Moi, j'ai été, quand j'ai démarré à Jeanne Garnier, il y avait un médecin, une femme, Cathy Pushpadas, qui était indienne, et c'est elle qui m'a enseigné ça. Moi, je sortais des hôpitaux, je voyais des médecins, enfin, tout le monde examinait les patients à toute vitesse, puis on avait l'impression que, enfin, c'était des gestes très, très très machinal, je ne sais pas si on dit machinal ou machinaux, enfin des gestes très rapides, expéditifs, voilà. Et puis quand j'ai vu ce médecin de soins palliatifs qui examinait ses patients, ça n'avait rien à voir. Elle prenait son temps. Quand elle posait la main sur l'abdomen d'un patient, elle le faisait avec un infini respect. Et vraiment, c'est elle qui m'a appris ça. Et je lui en suis très reconnaissante. Alors donc, le premier devoir, c'est de vraiment respectueux du corps d'autrui dans cette relation qui n'est pas symétrique. Hein. Vous examinez le corps du patient, mais le patient, voilà, il est là. Bon, ces devoirs, ils sont récapitulés dans le code de déontologie et le code de la santé publique. Et comme vous le savez, ces codes, ils ont énormément évolué ces 20 dernières années. Moi, j'ai connu dans les années 50-60 une médecine où il fallait prolonger la vie à tout prix. C'est seulement dans les années 70, en 1970, qu'est apparue la notion d'acharnement thérapeutique. Parce qu'il y avait eu de tels progrès dans la réanimation qu'on a commencé à se poser des questions. Et on a réalisé que respecter la personne, c'était pas forcément prolonger sa vie dans n'importe quelle condition. Le rapport Sicard explique très bien que face à une médecine qui était devenue de plus en plus technicienne, avec des pouvoirs de plus en plus étendus, a répondu de l'autre côté un droit du malade de plus en plus fort à l'information et à l'expression de sa volonté. Et tout ça, ça a été formulé à travers différentes lois. Et c'était une bonne chose. Hein. Moi, quand j'ai fait mes études de médecine et quand j'ai commencé à exercer la médecine, c'était effrayant. Hein. Les médecins étaient absolument tout-puissants et le patient n'avait strictement rien à dire. Vous n'osiez même pas poser une question pour essayer de comprendre les choses. Le patient était passif. Voilà, et le médecin avait tout pouvoir. Les grands patrons d'hôpitaux pilotaient leur service, personne ne dit rien, tout le monde s'exécutait, ça n'avait rien à voir avec la façon dont ça se passe maintenant. On est peut-être passé un peu dans l'extrême inverse, mais enfin bon. En France, on est très fort pour faire des lois sur les droits des malades. Ça, c'est un peu un défaut de la France. Et ça évite un peu de parler des devoirs des biens portants. On fait des lois les unes derrière les autres, qui ne sont pas forcément appliquées. D'ailleurs, on va en parler, mais ces lois sont très insuffisamment appliquées. Par contre, on parle très peu des devoirs des biens portants. On devrait parler un peu plus des devoirs d'accompagnement. On devrait parler un peu plus du fait que les personnes en bonne santé, ça serait légitime, logique et bien qu'elles accompagnent leurs frères en humanité en fin de vie. Bon, mais ça, on le dit nulle part. Alors, on a eu ainsi successivement la première loi Kouchner du 9 juin 1999, qui garantit l'accès aux soins palliatifs de tout malade dont l'État le requiert. Ça, c'est déjà une première loi qui n'est absolument pas appliquée. Il n'y a même pas la moitié des patients qui auraient besoin de soins palliatifs qui en bénéficient. Il y a un manque énorme en soins palliatifs. Dans les EHPAD, les trois quarts des résidents en EHPAD auraient besoin de soins palliatifs. Il n'y a pas d'équipe de soins palliatifs dans les EHPAD. Donc voilà, première loi qui dit des belles choses, mais qui n'est pas du tout suivie. Ensuite, il y a eu la deuxième loi Kouchner, le 4 mars 2002. Alors cette loi, elle garantit l'accès à l'information quant aux investigations, aux traitements et à leurs risques. Ça, c'est à peu près fait. C'est quand même nettement mieux fait qu'autrefois. Elle instaure la demande de consentement éclairé de la personne avant tout acte médical. Alors ça, c'est tout à fait fait. C'est-à-dire que chaque fois que vous passez sur la table d'opération, qu'on vous fait une petite intervention, on vous fait signer un papier. Dès qu'on vous fait un geste, on vous fait signer un papier. Mais ça, c'est simplement parce que les médecins ont peur des avocats. Et donc là, ils le font. Cette loi est appliquée. Et ça signifie au passage que la volonté du patient prime sur sa santé, sauf urgence ou incapacité. Alors, ensuite, elle introduit aussi cette loi-là de 2002, la personne de confiance, la notion de personne de confiance. Ensuite, il y a eu la loi Leonetti du 22 avril 2005, qui est résumée par M. Leonetti lui-même. La loi de 2005, c'est entre guillemets, respecter la vie, accepter la mort. C'est cette loi qui prohibe l'obstination déraisonnable. Autrefois, on était tous dans l'obstination déraisonnable. Il y a eu une époque où on était beaucoup dans l'obstination déraisonnable. Maintenant, c'est interdit, l'obstination déraisonnable. C'est pas qu'il ne faut pas être dans l'obstination déraisonnable, c'est que c'est coupable d'être dans l'obstination déraisonnable. Alors, au passage, moi, je trouve que dans les hôpitaux, on est encore bien souvent dans l'obstination déraisonnable. Mais c'est à nous on doit dire ce qu'on pense. Cette loi, elle reconnaît le double effet aussi, et elle accorde aux malades le droit de refuser tout traitement. Elle instaure les directives anticipées qui sont valables 3 ans et modifiables à tout moment. Et enfin, la dernière loi, c'est la loi Claeys-Leonetti du 2 avril 2016. Cette loi, elle a été résumée par M. Leonetti aussi lui-même, entre guillemets, c'est une loi « dormir pour ne pas souffrir avant de mourir ». Bon, cette loi, comment dire les choses positivement, c'est une loi qui va vraiment aussi loin qu'on puisse aller et qui est vraiment un peu limite. C'est-à-dire qu'elle peut être appliquée de façon tout à fait éthique et elle peut être appliquée de façon un peu moins éthique. Cette loi, elle offre aux malades le droit à une sédation profonde et continue jusqu'au décès. Alors ce droit est quand même encadré. C'est-à-dire que le malade, il a le droit de vous demander ça s'il est conscient, atteint d'une maladie grave et incurable dont le pronostic vital est engagé à court terme, et s'il souffre de symptômes réfractaires au traitement. Ou si ce malade, conscient, atteint d'une affection grave et incurable, décide d'arrêter un traitement qui engage son pronostic vital à court terme et est susceptible d'entraîner une souffrance insupportable. Donc il y a ces deux premiers cas de figure, et aussi il y a le troisième cas de figure, c'est lorsque le malade est hors d'état d'exprimer sa volonté et se trouve dans une situation d'obstination déraisonnable définie par la loi. À ce moment-là, il y a une procédure collégiale de délibération avant d'enclencher une sédation profonde et continue jusqu'au décès. Dans tous les cas, il y a une procédure collégiale qui est enclenchée pour vérifier que les conditions d'application de la loi sont bien remplies. Avant d'enclencher une sédation profonde et continue jusqu'au décès, il y a quand même un certain nombre de questions à se poser en équipe pour savoir si on est vraiment dans le cadre de la loi. Ce qui est un peu embêtant dans cette loi, c'est qu'il y a des choses qui ne sont pas parfaitement claires. La maladie grave et incurable, ça c'est tout à fait clair. On est capable de dire si le patient souffre d'une maladie grave et incurable ou pas. Par contre, le pronostic vital engagé à court terme, ça c'est déjà moins clair. Bien malin est le médecin qui peut dire si le pronostic de son patient est d'une semaine ou de 3 semaines. Le médecin ou l'infirmière, ils sont capables de dire si le patient est sur le point de mourir, s'il présente déjà des signes d'agonie. Là, il est capable de dire que le décès va se produire dans les 44 heures ou dans les 72 heures, si l'agonie est enclenchée. Mais si c'est dans une semaine, 15 jours, 3 semaines, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, pronostic vital engagé à court terme, c'est moyennement clair. Les symptômes réfractaires au traitement, à tout traitement, ça aussi, c'est un peu moins clair. Est-ce qu'on a vraiment tout essayé? Donc, vous voyez que cette loi, c'est quand même compliqué et un peu limite. Normalement, il y a un registre dans chaque établissement qui note, tout doit être tracé dans le dossier médical, chaque fois qu'une sédation profonde et continue jusqu'au décès est enclenchée, tout doit être écrit dans le dossier médical et il y a un registre qui est tenu dans chaque établissement. Je ne sais pas très bien si c'est fait ou pas, d'ailleurs. Cette même loi, Claeys-Leonetti, elle renforce les directives anticipées. Toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle sera un jour hors d'état d'exprimer sa volonté. Elles sont, au début, là, en 2005, elles étaient valables pendant 3 ans. Maintenant, elles sont valables sans limite de durée de temps. Et la différence, c'est qu'avant, elle ne s'imposait pas aux médecins. Maintenant, elle s'impose aux médecins, sauf urgence vitale ou sauf si elles sont manifestement inappropriées. En fait, il y a très très peu de patients qui rédigent des directives anticipées. Vraiment très peu. Ces directives anticipées, elles priment, si elles sont rédigées, elles priment sur l'avis de la personne de confiance, sur l'avis de la famille et sur l'avis des proches. Voilà, ça c'est la dernière loi qu'on a eue en 2016. Et bon, ce que j'espère très fort, c'est qu'on n'aura pas une loi... on va voir ce que nous réserve le... Vous savez qu'on va bientôt entrer en campagne électorale et donc je ne sais pas ce que vont nous promettre nos hommes politiques. Voilà. Je pense qu'on ne peut pas aller plus loin que là où on en est au jour d'aujourd'hui. Alors la sédation, c'est quelque chose qui existait déjà avant la loi Claeys-Leonetti, et c'est quelque chose qu'on pratiquait. Moi, j'avais pratiqué des sédations avant que la loi existe. Mais c'est des sédations qui étaient tout à fait exceptionnelles et c'est le médecin qui l'a proposé à son patient. On n'était pas du tout soumis à une pression des patients. Maintenant, on est soumis à une pression des patients parfois et à une pression des familles surtout. Moi, ça m'est arrivé, avant la loi Claeys-Leonetti, ça m'est arrivé deux ou trois fois d'être obligée d'enclencher des sédations profondes et continues pour des patients notamment atteints de cancer du poumon qui faisaient des détresses respiratoires. Au début, ils faisaient des détresses respiratoires qui étaient espacées tous les 15 jours ou toutes les 3 semaines. Et puis progressivement, les détresses respiratoires se rapprochaient. Et puis il y a un moment où vous, au moment de la détresse respiratoire, vous endormez le patient. Mais si dès qu'il se réveille, il se remet en détresse respiratoire et que vous êtes obligé de le réendormir, il y a un moment où vous êtes obligé de l'endormir sur le long terme et de faire en sorte qu'il se réveille. Plus si chaque fois qu'il se réveille, il est en grande détresse respiratoire. Mais c'est les seules fois où j'ai été obligée de déclencher des sédations profondes et continues jusqu'au décès, là, pour le coup. Voilà. Voilà, moi je vous laisse finir par une citation de Bernard Cesboué qui a écrit La mort, soit on la subit, soit on en fait l'acte ultime de sa vie, son couronnement. Toute personne humaine est confrontée dans ses derniers jours à un acte proprement spirituel, celui où elle va signer sa propre existence. Acte spirituel ne veut pas dire acte formellement religieux, mais acte de consentement et de paix, acte de réconciliation et de pardon à donner ou à accueillir, acte enfin de réconciliation avec soi-même, où le nom de Dieu pourra peut-être, mais pas forcément, être prononcé à bon droit. Voilà. Voilà, donc j'attends toutes vos questions.
Merci beaucoup.